Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et la nuit de dimanche à lundi à minuit. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel du samedi 7 octobre au samedi 14 octobre. Le samedi 7 octobre à 16h30, dans le cadre d'un projet sur la transition écologique, l'association Nœud Environnement organise une soirée ciné-débat dans l'ancien cinéma de Nœud-les-Mines, au centre socioculturel Georges Brassens. Il y aura la projection du film de Monique Robin « Qu'est-ce qu'on attend ?», suivi d'un échange avec le public. Afin de susciter les réactions, ils organisent une table ronde avec la présence de Jean-François Caron, maire de Los Angoël, avec des exemples concrets d'actions sur sa commune, mais aussi la mise en place d'une cantine bio dans une commune, d'une éolienne citoyenne, d'une monnaie locale, la réduction de la consommation d'eau, avec des toilettes sèches, etc., qui concourent à la transition écologique sur notre territoire.
Pour leur 25e édition, les Compteurs en campagne vous proposent du 29 septembre au 4 novembre 2017, dans le Nord et le Pas-de-Calais, une série de spectacles. À noter que dans notre territoire, à Mont-Saint-Éloi, le dimanche 8 octobre, à 11h à la salle Hamilton, vous pouvez avoir le plaisir de retrouver la conteuse Cécile Pérus pour un apéro-conte. Pour plus de renseignements sur l'ensemble des spectacles, vous pouvez aller sur le site internet www.foyerruraux5962.fr ou sur le Facebook compteur.encampagne.
Le lundi 9 octobre, au Ciné Movida à Arras, à 20h, le documentaire « Une suite qui dérange » de Bonnie Cohen et John Schenck. Nous y verrons l'ex-vice-président Al Gore qui poursuit son combat de défenseur du climat et exerce son influence sur la politique climatique internationale. Suite au film, une invitation à réfléchir ensemble, à confronter nos points d'accord et de désaccord entre participants.
Le vendredi 13 octobre, c'est une initiative des collectifs anti-Linky et notamment de l'association Linky 62. Il s'agira d'une réunion publique, hein, il y en a déjà eu plusieurs sur le territoire et ça en fait une de plus. Une réunion publique à Quéry-la-Motte le vendredi 13 octobre à 18h30 à l'initiative de l'association Linky 62.
Pour leur 25e édition, les Compteurs en campagne vous proposent du 29 septembre au 4 novembre 2017, dans le Nord et le Pas-de-Calais, une série de contes et de spectacles pour tous les âges. À noter dans nos agendas, dans le cadre des Compteurs en campagne, le samedi 14 octobre, un spectacle à 20h à la salle des fêtes de Neuville-Saint-Va. Pour tous les renseignements, vous pouvez aller sur le site internet www.foyerruraux5962.fr ou sur le Facebook compteur.encampagne.
Eh bien, je vous propose maintenant une première pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Rue. Rue est berlinoise, elle a une voix enchanteresse, drapée d'une douce mélancolie et d'un magnétisme surprenant. Elle nous propose des ballades folk qui sont de véritables créations intimistes. L'album que nous vous proposons aujourd'hui s'intitule Hunter and Prey, chasseur et proie. Et le morceau que nous avons retenu, tout en tension, s'appelle Mort. C'est maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Aujourd'hui, nous revenons sur quelques actualités qui se sont déroulées la semaine dernière. Tout d'abord, une actualité qui concerne l'activité de notre web radio Microrebelle. Puis, comme chaque semaine, quelques infos concernant les luttes qui se développent dans le bassin minier contre les installations du compteur électrique Linky. Et enfin, la présentation de l'association Cirque en Cavale que Microrebelle a rencontrée la semaine dernière.
Pour commencer ces actualités, un projet que Microrebelle mène avec le Café Méléon. Le Café Méléon, c'est un café associatif nomade, culturel et éco-citoyen, ouvert à tous et toutes, à Béthune. Le Café Méléon met en place un projet de web radio en partenariat avec Microrebelle. L'objectif, c'est de dynamiser et valoriser le quartier des Trois Îlots, rue de Lille, 8 Terres, Cheminot, Mont-Sans-Pareil, afin d'y améliorer le cadre de vie. Nous recherchons 8 jeunes de 12 à 25 ans, motivés et prioritairement issus de ce quartier. Nous leur proposons une formation gratuite ainsi qu'une mise à disposition du matériel d'enregistrement pour réaliser des reportages sur les thèmes de leur choix, société, culture, manifestations locales, etc. Envie de créer une web radio? Contacte Sacha Pisclo au 06 05 06 53 14 ou envoie un mail webradio@caféméléon.fr.
L'actualité, c'est encore et toujours, on a envie de dire, la mobilisation contre la mise en place des compteurs Linky dans le bassin minier. On vous a présenté tout à l'heure dans l'agenda la réunion publique qui était programmée à Quéry-la-Motte. Eh bien, dans l'actualité, c'est vrai que cette mobilisation, elle ne faiblit pas, bien au contraire. On sent qu'il y a vraiment une inquiétude et une résistance de nombreux habitantes et habitants du bassin minier. Alors, il y a justement un nouveau site internet qui a été mis en place. Ce site internet, il est accessible à l'adresse politis62.org/linky. Et donc là, on va y trouver plusieurs pages consacrées à ces mobilisations et aux ripostes individuelles et collectives des habitants et habitantes du bassin minier. Alors, peut-être à titre d'exemple, on a parcouru un petit peu ce site internet politis62.org/linky. Donc les quelques exemples un petit peu qu'on a pu y relever. Les distributions de tracts, nombreux tracts d'information des collectifs qui se sont mobilisés afin d'informer largement la population. Il y a également une pétition qui est en ligne et qui commence à être signée par différentes personnes dans les cités, dans les villes et les villages du bassin minier. Ensuite, une information, Enedis maintenant tient des permanences. Ce sont des permanences très encadrées qui sont en fait des actions de propagande finalement pour défendre un petit peu la mise en place des compteurs. Eh bien, les collectifs ont décidé et prévu de manifester avec des pancartes à l'occasion de ces actions de Enedis, de ces permanences de Enedis. L'objectif des collectifs anti-Linky, c'est d'aller à la rencontre de la population pour expliquer un petit peu l'ensemble des problématiques qui peuvent être liées à la mise en place de ces compteurs Linky. Autre initiative qui est relatée puis qui commence à bien se développer, c'est de l'affichage en ville. Donc on a vu des panneaux d'affichage, notamment à Angres, dans la ville d'Angres. Des panneaux d'affichage qui ont été faits par les collectifs militants, autrement dit sur des draps, sur des panneaux cartonnés, et accrochés aux entrées de ville. Et c'est, ma foi, une décoration qui est assez sympathique. Enfin, une dernière action qui apparemment est issue des permanences qui se tiennent à l'initiative des collectifs anti-Linky, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup trop en tout cas, de personnes qui ont le compteur Linky installé chez elles, qui ne le savaient pas, qui ne connaissaient pas un petit peu, qui n'étaient pas informées, ou alors qui ont été contraintes par des actions d'intimidation de la part des sous-traitants de Enedis. Alors, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes seules, des personnes qui ont pu être influencés d'une certaine manière par les sous-traitants d'Enedis, intimidés même parfois. Hein, il y a des témoignages assez significatifs d'actions complètement répréhensibles, hein, qui visent à installer les compteurs. Et donc beaucoup de personnes souhaitent revenir en arrière, et donc les collectifs militants ont décidé de mettre en place des témoignages, autrement dit de faire s'exprimer par écrit les personnes qui souhaitent revenir en arrière, et donc de recueillir leurs témoignages, comment s'est passée l'installation du compteur, quelles informations elles avaient, quels délais leur ont été proposés, etc., etc. L'idée, c'est que même si on a le compteur Linky installé, eh bien, on va essayer de mener une certaine bagarre pour revenir en arrière au travers de ces témoignages. Donc l'idée, ça va être de compiler ces témoignages, de les rendre publics, de les présenter à la presse, éventuellement de se faire accompagner d'un avocat. Tout ça, ça reste à déterminer par les personnes qui sont dans l'action. Voilà, je vous rappelle donc un petit peu le site internet où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Donc c'est politis62.org/linky. Et si vous souhaitez avoir des informations, le plus simple, c'est le courrier électronique à l'adresse linky, L-I-N-K-Y, @bassinminier62.org.
Cirque en Cavale, c'est une association de promotion des arts du cirque, est également une école de cirque. Ils sont implantés en milieu rural, leur chapiteau se trouve à Pernes-en-Artois. Ils fêtent cette année leurs 20 ans. Cette semaine, l'association a organisé une journée de rencontres et de réflexions en direction de ses membres. Micro-Rebelles y était, et nous avons donc proposé à quelques participantes et participants de nous exposer la vision qu'ils ou elles avaient à propos de leur association Cirque en Cavale. Je vous propose de les écouter.
Oui, bon, ben, moi je suis Dominique, la présidente de Cirque en Cavale. Enfin, je dis présidente, mais on est surtout un conseil d'administration entier qui est gérant Cirque en Cavale. Cirque en Cavale, c'est une association qui fête ses 20 ans cette année. Donc 20 ans de progression, puisqu'on est parti d'un petit groupe, je dirais, autour d'Eric qui venait de vivre le décès de son oncle, qui avait cette première association qui s'appelait le CIRFOC, où il commençait tout juste à travailler, et pour ne pas laisser tomber cette Eric, tout simplement, je pense, et ce projet d'activité cirque que Eric avait, on s'est constitué en association Cirque en Cavale pour l'épauler, et de fil en aiguille, on a une association maintenant costaud, puisqu'il y a 10 salariés, il y a un conseil d'administration que je trouve aujourd'hui pluriel, avec les membres fondateurs que nous étions, avec des parents des élèves qui viennent à l'école de cirque, et puis aussi même des artistes, puisqu'on a aussi à Cirque en Cavale une activité programmation de spectacles de cirque, notamment des compagnies de notre région qui peuvent trouver ici un public rural aussi, puisque ça aussi c'est la vocation de Cirque en Cavale, c'est d'être en milieu rural et de cavaler d'ailleurs en milieu rural, puisqu'on a deux chapiteaux itinérants à côté de notre lieu, de notre base qui est aujourd'hui à Pernes en Artois, mais ça n'a pas toujours été Pernes, la difficulté étant justement de trouver un ancrage en milieu rural, et notamment dans le Ternois, et même ça a été dans la région d'Hesdin à un moment donné. Donc voilà pour peut-être déjà un petit peu le paysage général. Et puis aujourd'hui, on est dans la réflexion de créer un lieu fixe qui soit toujours autour du cirque, bien sûr, des activités cirque, accueillant des enfants et des adultes d'ailleurs en atelier, en diffusant des spectacles, en continuant notre travail aussi autour de, des artistes et des créations de spectacles, en les accueillant en résidence, mais d'en faire ici à Pernes-en-Artois un lieu fixe pouvant permettre d'une part de développer tout ça et aussi de créer du rapprochement avec le territoire plus fort, avec les habitants de ce territoire et peut-être des personnes environnantes, en créant ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, enfin, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des activités qui permettent aussi de se faire rencontrer tout ce monde-là autour d'activités partagées. Alors on a commencé à imaginer des choses et surtout on essaye de faire en sorte que ceux qui viennent déjà au cirque, qu'ils soient artistes, qu'ils soient usagers, parents, etc., salariés, réfléchissent à qu'est-ce qu'on pourrait offrir à côté, donc, et en même temps que le cirque. Bon, ça peut être un jardin, ça peut être un café, ça peut être de l'accueil des parents qui attendent leurs enfants pour discuter entre eux, pour aider les autres enfants qui, eux, font pas le cirque à faire des devoirs, enfin, etc., etc. Faire en sorte que ce soit un lieu de vie permanent, dans un lieu fixe qu'on aimerait convivial, beau, écologique, durable, etc., etc. On rêve, mais on espère y arriver.
Et donc c'est un nouveau projet avec de nouvelles dimensions, mais financièrement ça change complètement la donne de la réalité de Cirque en Cavale.
Bah oui, là notre pas souci, mais enfin là aujourd'hui c'est trouver des moyens financiers pour effectivement créer un lieu fixe. C'est quand même beaucoup d'argent, il faut un terrain, puisqu'ici là où on est implanté on peut pas s'implanter et implanter un lieu fixe parce que c'est pas constructible, donc faut trouver un lieu, faut trouver de l'argent pour faire les bâtiments, puisqu'il y aura des bâtiments pour faire un chapiteau, qui parce qu'on tient à notre chapiteau absolument, mais qui soit quand même comment dire, développement durable. Ça c'est pas évident, puisqu'un chapiteau c'est quand même compliqué à chauffer, notamment tous les mois d'hiver, donc tout ça c'est un gros projet financier, puisqu'on en arrive aujourd'hui et on s'effraie nous des chiffres à plus de 800 000 euros. Mais bon, on est on est en route pour trouver l'argent, pour solliciter les financeurs, pour les faire en sorte qu'ils nous accompagnent dans ce projet. Bon, on a déjà des bons échos du département, notamment. On espère vraiment que la région va nous rejoindre. Le plus compliqué, c'est les collectivités locales qui aujourd'hui se disent étranglées et donc en plus de difficultés à mettre la main à la poche. Bon, sachant qu'ici, on a mis les locaux, mais le terrain est mis à disposition gratuitement par la ville de Pernes, ainsi que nos locaux administratifs. Hein, donc, et on est très soutenu par la municipalité de Pernes. Donc, effectivement, on a un petit peu un gros chantier devant nous pour trouver de l'argent. Mais en même temps, on travaille à trouver l'argent. Puis on... oui, effectivement, pour répondre à ta question, oui, ça nous change complètement la donne et ça. En même temps, ça nous inquiète, bien sûr, c'est pas facile, mais ça nous motive, ça nous mobilise. Il faut qu'on réfléchisse au statut de notre association, il faut réfléchir avec les salariés, il faut réfléchir avec les nouveaux membres du conseil d'administration, parce qu'on avait réussi à motiver de nouveaux membres du conseil d'administration. Et je pense que c'est en même temps un vrai enjeu intéressant et qui nous font aussi réfléchir à ce qu'on veut, quoi, tout simplement, à remettre sur la table ce qu'on veut vraiment. Quel projet on a vraiment, donc c'est très très motivant.
Alors Éric Chérigier, directeur actuellement de l'école de cirque Cirque en Cavale. J'ai découvert moi les arts du cirque par le biais de mon oncle Jean-Michel qui lui était comédien professionnel et il animait des ateliers avec la bande à Léon, une troupe d'Emmaüs de Bourg-la-Bussière. Et il animait aussi des petits camps d'été avec des jeunes. Et moi, j'avais passé le BAFA et il m'a convié à animer ces camps d'été où il partait avec sa roulotte, un centre équestre et puis des jeunes, des enfants plutôt, et des ados, pour y faire des spectacles plutôt axés sur le clown d'ailleurs. Et il avait intégré dans sa troupe une jeune acrobate qui venait de l'école Fratellini à l'époque. Et donc, moi ça m'a bien plu, j'ai continué par moi-même à travailler la jonglerie, et de fil en aiguille, je suis devenu jongleur, puis échassier, puis... un petit peu acrobate, hein, légèrement, et quand il a fallu reprendre l'activité en 1996, eh bien, j'étais bien motivé pour reprendre des activités d'abord d'enseignement, enfin de cours de jonglerie bénévolement, et ensuite ça s'est transformé en activité salariée par l'opportunité des postes emploi jeunes. J'étais le premier emploi jeune du Nord-Pas-de-Calais au niveau associatif. Grâce en fait au soutien de l'équipe du conseil d'administration d'alors, que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et donc cela fait 20 ans que je travaille pour Cirencaval. Et en 20 ans, on a vu passer bien des choses. Hein. Nous avons commencé dans des petites salles et en 2000, je pense en 2001-2002, nous avons réussi à acheter notre premier chapiteau. Et c'était le début d'une autre aventure avec notre premier chapiteau qu'on montait comme on pouvait, parce que moi j'y connaissais rien au chapiteau. Hein. J'avais fait une petite formation de 2-3 jours et j'ai appris vraiment en le montant, en le démontant, en échangeant avec des collègues d'autres écoles de cirque, hein, puisque l'ensemble des écoles de cirque du Nord-Pas-de-Calais enfin, se sont montées un petit peu en même temps, et donc on a un parcours un peu parallèle et on a pu évoluer comme ça ensemble et en se donnant des conseils mutuellement. Et aujourd'hui donc nous avons en 2017, nous avons maintenant trois chapiteaux. Un chapiteau qui reste monté à Pernes et deux chapiteaux qui tournent dans les communes, dans les villes et villages du Pas-de-Calais principalement, mais pas que. Et ces chapiteaux sont montés pour des projets que l'on mène avec des collectivités, pour des associations aussi. Hein. Des associations font appel à nous pour mettre en place un festival. Je pense à l'association La Note Bleue à Rumingem. Donc on a toujours, au sein de Cirque en Cavale, cherché à développer des activités, à développer les arts du cirque en secteur rural. Hein, ça a toujours été le fer de lance de l'association. Et ce qui ne nous empêche pas aussi de travailler en ville, parce qu'en ville, il y a plus de moyens et des fois, c'est plus facile aussi de travailler en ville. Mais ça nous a toujours permis, par la suite, d'investir pour mettre en place des activités sur le secteur rural. Et aujourd'hui, nous avons une école de cirque qui fonctionne bien à Pernes, avec une centaine d'élèves qui s'inscrivent au sein de l'école de cirque, une équipe salariée d'une dizaine de salariés qui mettent en place des projets. Donc effectivement, ce n'est pas les 100 élèves de Cirque en Cavale qui font vivre la structure, c'est plutôt l'ensemble des projets que nous avons avec nos partenaires, hein, les partenaires institutionnels, associatifs, et puis les collectivités. Voilà.
Alors peut-être une question un peu plus personnelle, toi tu as été jongleur, tu as vraiment participé très concrètement à la montée en puissance de Cirque en Cavale, tu as fait un petit peu d'acrobatie aussi, hein, tu disais, et aujourd'hui tu es directeur, c'est deux mondes différents, non ?
Alors ça demande de travailler, enfin de gérer son déséquilibre en fait, hein. C'est ça, que c'est comme le fil d'équilibre, hein. On est toujours, on a un axe, hein, et il faut rester dessus, hein. Des fois donc il y a des hésitations, hein, on perd un petit peu le pied, des fois on tombe, on se rattrape et il faut remonter. Donc au niveau de l'expérience, bon, j'ai eu l'occasion de travailler avec différents collègues, hein, l'équipe salariée a évolué, hein, donc il y a eu des tempêtes, hein, dans cette aventure. Il y a eu et il y a aussi des très 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 bons moments. Et ça demande les capacités qui sont développées dans les activités du cirque. On les retrouve dans le fait de gérer une association au quotidien. Il faut s'adapter sans cesse à une nouvelle équipe, à son environnement, hein, comme pour les activités d'équilibre. Il faut jongler, hein, jongler avec les chiffres, avec les moyens qu'on nous donne. Et il faut faire en sorte que tout cela tienne en l'air ou tourne, hein, comme trois balles qui tournent pour des mouvements de jonglerie. Donc, et puis il faut être souple. Il faut être souple, hein. Des fois il faut pouvoir se contorsionner un petit peu pour entrer dans les cases des administrations, pour pouvoir développer tel projet. Donc il faut effectivement pouvoir rentrer par la fenêtre, si par la porte c'est pas possible. Donc il faut toujours essayer de trouver, chercher. Hein. Donc il y a beaucoup de créativité à développer pour pouvoir gérer une structure comme celle-ci.
Je crois que c'est assez parlant, le fait de prendre comme image un peu la vie du cirque pour la mettre en parallèle avec la vie de directeur associatif. Je crois que c'est vraiment une belle image. Justement, tu as encore l'occasion d'aller sur le terrain, d'aller dans la fosse pour jongler, ou c'est un temps qui révolue ?
Je fais parfois des remplacements, hein, parce qu'il y a des moments donc il manque quelqu'un, donc il faut le remplacer. Donc je prends plaisir à pouvoir remplacer un des animateurs hein, qui serait pas là pour animer un groupe. Mais effectivement, à mon sens, j'ai plus assez l'occasion de faire de la jonglerie, de l'acrobatie ou de l'équilibre. Mais bon, l'idée, c'est de retrouver un équilibre par rapport à ça aussi, de pouvoir continuer à pratiquer. C'est un des objectifs prochains que j'ai en tête, en tout cas.
Alors, je m'appelle Jacqueline, je travaille dans le réseau des émissions locales et j'ai eu à cette occasion l'occasion de rencontrer Cirque en Cavale il y a 4 ou 5 ans, 5 ans maintenant, à une époque où j'avais besoin d'un coup de main pour l'organisation d'une manifestation avec des jeunes. Et j'avais vraiment fortement apprécié le travail qui avait été proposé, la manière d'approcher l'activité et comment Eric et l'équipe avaient été capables de valoriser en fait les jeunes qui étaient présents sur les ateliers cirque qu'on avait organisés. Voilà, un peu naturellement, j'ai suivi Dominique Bourgeois sur le conseil d'administration où je participe de temps en temps. Trop peu, je pense que la distance favorise pas un investissement suffisant, mais de temps à autre, oui, je viens et m'intéresser au développement en fait de l'association et aux beaux projets qui est en train de se construire, et puis et aussi ponctuellement sur des manifestations, voilà, pour donner quelques petits coups de main à l'organisation ou au démontage du matériel, ça arrive.
Bonjour, donc Jean-François Baran, donc bénévole à Cirque en Cavale pour voilà, au niveau technique, montage, démontage de chapiteaux, donc investi dans la structure depuis maintenant quelques années. Voilà, dès que j'ai du temps, voilà, m'investir dans un peu le milieu associatif, comme je peux le faire dans d'autres événements, dans le milieu musical, dans les festivals, etc. Et voilà, donc au lancement du projet d'une structure en dur pour le cirque, sachant que je me suis recyclé professionnellement récemment. Donc là, je sors d'une formation en construction bois, charpente bois. Et du coup, ce projet me tient à cœur, et notamment dans cette école de cirque, voilà, qui me tient tout particulièrement à cœur, quoi, avec des amis. Et voilà, donc c'est une famille, une grande famille, et faire partie de tout ça, quoi.
Alors ça veut dire que tu habites pas très loin de Pernes. Comment s'est fait la rencontre avec Cirque en Cavale et qu'est-ce qui t'a motivé ?
D'accord. Non, j'habite pas très loin. À Auchel, c'est à 5 minutes d'ici. Et mon trait d'union, enfin mon lien avec Cirque en Cavale, c'est Maxime, mon camarade qui est là pas très loin. Mais bon, on le voit pas sur le micro. Et qui lui est professeur dans cette école. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce monde en fait. Voilà, le monde du spectacle. Et notamment l'art du cirque en général. Voilà.
C'est vrai que là on est sous un chapiteau, c'est un peu fascinant quand même.
C'est l'ambiance, le lieu est un peu féerique, magique, et tout ce qui tourne autour de ça en général. La bonne ambiance, tout est un peu magique autour de ça, et c'est, voilà, c'est ce qui nous attire tous ici aussi. Quoi.
Moi je suis Marinette, je suis à l'association depuis 17 ans. À la base j'étais agent de développement des arts du cirque, donc je m'occupais principalement, je déchargeais Eric principalement des tâches de secrétariat, toute la partie administrative pour qu'il puisse davantage faire d'ateliers. Et puis au fur et à mesure des années mon poste a évolué. Aujourd'hui je m'occupe principalement de la communication, de toute la partie intermittence, de la mise en place de projets cirque, que ce soit spectacle ou atelier.
Comment tu pourrais décrire un petit peu ce que fait Cirque en Cavale, une année de Cirque en Cavale, qu'est-ce que c'est?
Alors, il y a la partie école de cirque où les enfants viennent s'inscrire comme un club de football en septembre. Ils remplissent une fiche d'inscription, ils payent une cotisation, ils participent chaque semaine à un atelier régulier jusque juin, où là ils viennent présenter également un spectacle pour le gala. Et il y a la partie prestation de service. Donc une collectivité, une association, enfin peu importe, nous commande soit une action ponctuelle, une après-midi, où on les accueille sous chapiteau pour une journée découverte, ou un projet à long terme sur l'année, où il y a présentation publique, etc., où on vient y installer au sein de l'école le chapiteau. Donc il y a cette partie-là. Il y a également la partie on vient installer le chapiteau en partenariat avec une collectivité dans une commune pendant 15 jours, 3 semaines. On y fait découvrir les arts du cirque. On fait découvrir les arts du cirque aux scolaires, aux centres de loisirs. On peut prêter également le chapiteau aux associations du territoire pour n'importe quel événement, et on peut accueillir également des artistes en résidence durant cette période qui viennent présenter à la fin du projet leur spectacle. Et là, il y a billetterie, les scolaires sont invités, les habitants du village, etc.
Alors tu parlais de chapiteaux nomades, en quelque sorte qu'on pouvait dépasser le chapiteau. Le territoire qui est couvert par Cirque en Cavale, C'est le Ternois, c'est le Pas-de-Calais, c'est le Nord-Pas-de-Calais, qu'est-ce que c'est ?
On va dire qu'on rayonne sur tout le département, enfin, voire même sur les Hauts-de-France, tout en faisant également attention de ne pas piétiner sur le territoire des autres. Genre, si on nous appelle pour une prestation à Lille, on va leur dire bah, écoutez, il y a l'école de cirque de l'homme ou bien du cirque du bout du monde à Lille. Voyez d'abord avec eux, s'ils ne sont pas dispo, revenez vers nous. Mais principalement, notre activité couvre le territoire du Ternois, qui est très étendu maintenant, et des sept vallées, vers Hesdin et Fruges, enfin, sur ce territoire.
Il y a combien d'associations de type cirque en cavale ?
Dans les Hauts-de-France, je ne veux pas dire de bêtises, on doit être, j'allais dire 7 ou 13, je ne sais plus trop, écoles de cirque agréées par la Fédération française des écoles de cirque.
Une dernière question, tu évoquais un petit peu ton activité concernant les intermittents. Ça consiste en quoi ? Ça veut dire que ce sont des intermittents qui viennent ponctuellement pour des spectacles ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, soit on accueille un spectacle d'une compagnie et on paie leurs prestations sous forme de facture, ou soit on embauche des intermittents pour mettre en place un atelier spécifique machinois ou une autre forme. Et là, on leur paie un cachet d'intermittent.
Alors moi, j'ai connu Cirque en Cavale par Eric, parce que je travaillais à l'école de cirque de l'homme. Et Eric m'a proposé de remplacer Marinette, qui était en congé maternité à l'époque. J'y suis restée 6 ans. J'ai démissionné pour me reconvertir dans autre chose, en fait, dans la cuisine. Et je reviens quand même à Cirque en Cavale de temps en temps et donner un coup de main. Et je suis mariée avec l'un des salariés de Cirque en Cavale aussi.
Alors, c'est intéressant ton parcours, là, Cirque de l'Homme, Cirque en Cavale. Ton activité, c'était quoi ? Qu'est-ce que ça a été ?
Alors moi, j'étais animatrice cirque et je m'occupais de tout ce qui était partie de subventions, de dossiers de demande de subventions.
Et ton conjoint, donc ton mari, hein, en tant que salarié ?
Alors lui, il est animateur cirque et responsable technique de montage de chapiteaux aussi.
Alors comment est-ce que tu décrirais l'activité générale de Cirque en Cavale ?
Ouh, plein de choses. plein de choses. Y a les montages de chapiteaux. Enfin, ça propose énormément de choses en fait. Mais pas que des ateliers cirque. Et souvent, quand on dit école de cirque, on pense que c'est que une prestation. Mais en fait, non, il y a plein de choses. Les spectacles, les artistes qui viennent en résidence. Par exemple, moi, j'aime beaucoup cuisiner pour eux. Et c'est toujours un échange. C'est un échange en fait.
Place maintenant à notre deuxième pause musicale. Nous vous proposons le Parisien Pfau, P-F-A-U, qui publie ses compositions dans un registre folk et lo-fi assumé. Il diffuse ses créations sur Internet au travers du label Influenza Records. Il est ici accompagné par le combo Social Square pour son album Pfau 2, un album à l'esthétique lo-fi, brinque-ballante et attachante. On va pouvoir en juger avec le morceau qui suit, Old Story.
I can't find the same song.
C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Tous les reportages de Microrebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel, à la rubrique Microrebelle reportage. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Microrebelle hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Pour cet extrait, nous vous proposons de nouveau de retrouver les paysannes et paysans qui nous accompagnent depuis 2 semaines. Vous le savez sans aucun doute, Microrebelle a entrepris de réaliser un reportage en 3 parties sur les hommes et les femmes qui font l'agriculture paysanne et qui luttent pour la mise en œuvre d'une autre agriculture respectueuse des hommes, des femmes et de la nature, et donc à rebours de l'agriculture industrielle. Cette semaine, c'est le dernier volet de ce reportage qui est diffusé. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Je vous laisse donc sans attendre en apprécier quelques passages et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Bonjour, je m'appelle Karine, je suis en voie d'être paysan, je suis en train de m'installer avec mon compagnon dans le début de la Vénois en maraîchage biologique et production de plantes aromatiques et médicinales. C'est une reconversion, avant j'ai travaillé 10 années dans l'édition. Et j'habitais à Paris, voilà. Et par ailleurs, je suis bénévole et administratrice d'une association qui s'occupe d'accompagner les gens, dans mon cas en fait, qui veulent s'installer en agriculture mais qui ne sont pas issus du monde paysan et qui ont des projets d'installation un petit peu atypiques par rapport au monde agricole traditionnel.
Très bien, alors comment s'appelle cette association ?
Elle s'appelle Avenir 5962.
Tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est, ça concerne qui, qu'est-ce que c'est que ces projets dont tu nous parles, le tien notamment, puis d'autres, dont s'occupe Avenir ?
Donc c'est une association qui a été créée pour donc soutenir les projets d'installation en agriculture paysanne. Et donc les projets dits atypiques, enfin c'est la vision de la chambre d'agriculture en fait. Donc atypique, il faut savoir que le maraîchage est déjà considéré comme atypique, même s'il l'est sans doute de moins en moins et que les institutions commencent à mieux connaître. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système de ferme polyculture-élevage à grande échelle avec des recherches de profit. Enfin, ouais. C'est vraiment une agriculture paysanne plus à taille humaine avec une volonté un peu de progrès. De progrès social, enfin de d'épanouissement individuel aussi, enfin voilà, des recherches en fait, beaucoup de porteurs de projets qui vont dans cette direction recherchent aussi un meilleur équilibre de vie. Souvent ils ont quitté des boulots un peu qui étaient bien payés, mais où la part humaine était beaucoup moins importante.
Ce qui est ton cas typiquement? Tu disais que tu viens de l'édition.
Un petit peu. Oui, moi j'étais pas dans un cas extrême. C'était mon boulot, était pas si mal. C'est juste que moi j'en avais marre de la ville. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. C'est vrai que la structure entreprise me convenait à moitié aussi. Mais j'étais pas non plus dans le pire des cas. Mais oui, j'avais un désir de retourner plutôt à la campagne. Au départ, je pensais même bosser à distance. Et puis finalement, le défi de créer son activité et d'être un petit peu autonome. M'a tenté, quoi.
L'a emporté.
Voilà.
Alors justement, ben, donc je suis jeune, ce que je fais dans mon boulot me plaît pas, j'envisage de faire du maraîchage, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais voir Avenir, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que va faire Avenir pour moi?
Avenir, dans un premier temps, va... Tout dépend, enfin si c'est vraiment juste une idée qui me passe par la tête, Avenir va commencer par m'inviter à creuser un petit peu, c'est-à-dire en allant voir un petit peu la réalité sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de rêves en ce moment sur le monde agricole, on projette beaucoup beaucoup de choses qui ne correspondent pas forcément toujours à la réalité, c'est un milieu qui est quand même pas facile, même si on n'est pas dans le milieu agricole traditionnel, c'est pas un travail très, très facile. Et d'ailleurs, moi, je remarque un paradoxe, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des burn-out et des gens qui étaient vraiment pas bien dans leur travail, qui arrivent dans un changement, qui sont déjà fragilisés et qui finalement veulent choisir un métier où ça va être aussi très dur. Enfin, c'est un peu... Mais après, pour certains, ça prendra, pour d'autres, non. Et parfois, ça sera juste une étape vers autre chose. Et c'est plutôt, je pense que ça marque un retour vers un désir de plus d'authentique.
Alors, tu parles d'un métier très dur. Qu'est-ce qui est dur dans l'activité de paysan ? C'est le temps de travail.
Temps de travail est assez important. Après, je pense que la densité du travail est peut-être par contre moins importante pour ce qui est travaux des champs, par exemple. Moi, je sais que je vais passer beaucoup plus facilement 8 heures dans le champ que 4 heures devant mon ordinateur. Enfin, en termes de charge mentale, c'est pas la même chose. Après, ce qui est difficile, c'est de tout combiner, parce que surtout, on est beaucoup dans des projets vente directe, on veut diversifier, faire de la transformation. Enfin, en gros, quand on arrive dans un projet comme ça, vu l'extérieur, on a envie de tout faire d'un coup. Enfin, moi, c'est vraiment mon cas, faire des plantes, faire les transformer, les vendre en direct, faire des formations, des animations, enfin... Donc voilà, déjà, il faut savoir faire la part des choses dans tout ça, savoir les combiner. Donc il ne faut surtout pas commencer en faisant tout. donc ça, c'est quand même un vrai travail de gestion, qui est quand même bien prenant aussi, sans parler de toute la comptabilité et tout ça, et la gestion d'entreprise. Et puis, surtout les premières années, il y a quand même tout ce qui tourne autour de l'installation, qui est particulièrement difficile, en fait. Les recherches de terre, les confrontations, en opposition, mais se confronter aux réalités des institutions agricoles, faire toutes les démarches, c'est pas les démarches les plus évidentes qui soient, quoi. C'est un peu, je pense que dans l'administration, l'agricole est assez haut placé pour sa complexité.
Très bien. Alors donc justement, hein, avec un petit peu ta sensibilité à venir, puis ta sensibilité pratique, hein, avec ton compagnon, comment est-ce que tu vois d'une manière générale la réalité du monde paysan, son évolution aussi, son devenir, qu'est-ce qui prédomine chez toi ? C'est l'optimisme ? C'est un questionnement permanent
Bah, c'est un peu les deux. Enfin, je dirais pas pour le monde agricole plutôt que le monde paysan. Moi, j'ai l'impression qu'on va dans deux directions en même temps, en fait. Qu'il y a d'un côté les très gros et l'agro-industrie qui ne fait que augmenter et qui est de pire en pire. Et de l'autre côté, il y a un retour... justement avec des petits projets, les consommateurs qui ont envie de retrouver le lien avec les agriculteurs, et inversement. Et donc ça, je trouve ça super positif, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans ce sens, pour peu qu'on ne mette pas trop de bâtons dans les roues. Je pense que ça ne peut être que... Je pense que on va vraiment évoluer dans le bon sens. Tout dépendra après, évidemment, des décisions en haut lieu, si vraiment ils sont décidés à laisser faire ça ou pas, quoi, mais... A priori, si la dynamique qui est en route continue, c'est plutôt positif, quoi. Mais après, c'est vrai que de l'autre côté, il y a quand même toute une part du monde agricole et agroalimentaire qui est bien loin de tout ça. Et ça, il faut pas se le cacher non plus, quoi. Et on n'est pas encore prêt de nourrir tout le monde en France avec la petite agriculture biologique ou paysanne, quoi.
Bien, je te remercie. Alors, une toute dernière question, peut-être très très pratico-pratique. Hein. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'activité que tu as avec ton compagnon? Tu parlais de vente directe, c'est du maraîchage, tu parlais de plantes aromatiques. Concrètement, vous faites quoi? Vous commercialisez quoi? C'est où? On peut vous trouver où? On peut vous soutenir comment?
Alors nous, on a créé une petite structure qui s'appelle le panier de la Tournichette à Warny-le-Petit, donc c'est entre Valenciennes et Maubeuge, juste au milieu, c'est vraiment les portes de la Vénois. Donc on cultive surtout des légumes sur à peu près, pour l'instant on a 8000 m2, et dont une parcelle qui est à 10 km de chez nous, c'est pas très pratique, mais on a les serres tout près de la maison, ça c'est mieux. Donc on cultive, on a au moins une trentaine de légumes, hein, ça, de cultures plus classiques de conservation, carottes, pommes de terre, betteraves, jusque des cultures de serres comme tomates, poivrons, aubergines, voilà. On essaye d'avoir des variétés un peu diversifiées, parce qu'on vend, en fait, on fait donc de la vente directe, essentiellement sous forme de panier, même si pas seulement. On fait pas partie d'une AMAP, mais on a gardé un peu le système de panier qui nous permet d'optimiser au mieux l'écoulement de notre production. Comme on a une très petite surface, on peut pas trop se permettre d'avoir de pertes. Et du coup, on propose un panier toutes les semaines à 15 € ou à 20 €, et puis les gens disent ok ou pas. Enfin, eux n'ont pas d'engagement. Et voilà, ils choisissent le panier. Après, s'ils veulent prendre quelque chose en plus, ils peuvent, et c'est payé en plus. Enfin, il y a une liste de légumes au détail aussi. En vrai, on remarque que 80% des gens au moins prennent le panier, quoi. Donc, Voilà, ça leur permet de découvrir des légumes. Moi, je leur fais une petite newsletter toutes les semaines pour leur expliquer un peu la vie de la ferme, les légumes, comment les cuisiner, tout ça. Et on sent vraiment qu'ils ont envie de... Ils accrochent à ça, ils ont envie de redécouvrir, quoi. C'est...
Et tu parles de newsletter, il y a aussi un site internet ?
Il y a un blog, oui. Enfin bon, après, concrètement, il reprend la newsletter. Au début, il y avait d'autres choses, mais là, c'est rare qu'il y ait un nouveau.
Mais peut-être pour le signaler aux auditrices, aux auditeurs.
Oui, voilà. Ouais. Bah, c'est... Alors, on n'a pas encore réussi à le mettre sous un vrai nom de domaine. Donc, c'est tournichette.wordpress.com. Mais si on tape tournichette sur Google, on tombe forcément sur nous.
Très bien. Bah, merci, Karine. Voilà. Et puis, bonne continuation et bon courage.
Merci.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.